c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de cette émission spéciale 11 novembre, eh bien oui, c'est férié, eh bien on est là, il n'y a pas de repos pour les braves et on vous propose en plus une émission 100% inédite aujourd'hui. Avec une spéciale du très beau téléfilm diffusé ce soir sur TF1, Itinéraire d'une maman braqueuse. À cette occasion, on va recevoir dans une poignée de secondes Alexandre Castagnetti et Mehdi Sadoun qui seront avec nous, le réalisateur et le comédien. Et puis juste après, eh bien en deuxième partie d'émission, on recevra Claire Nadeau et Cécile Reboa, l'héroïne de ce très beau téléfilm. On va parler également de OPJ Pacifique Sud, la nouvelle série de France O qui débarque, la remplaçante de Cut, tournée en Nouvelle-Calédonie, débarque aujourd'hui à 19h sur France O. On va en parler avec Antoine Stipe, celui qui joue Gaspard dans la série. Et puis nous allons également consacrer une partie musicale de cette émission avec le chanteur Tom Frager. Il vient de sortir son 4e album au large des villes, on va le découvrir bien évidemment avec lui. Alors j'espère que vous allez passer en tout cas une heure magnifique en notre compagnie. Spécial 11 novembre, c'est Chute, on écoute la télé aujourd'hui. On va tout de suite démarrer donc avec notre spécial itinéraire d'une maman braqueuse. C'est parti.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine, c'est Itinéraire d'une maman braqueuse qui va être diffusé ce soir sur TF1. Alors on va consacrer toute une partie de notre émission avec, pour commencer, bien son réalisateur, Alexandre Castagnetti, qui est un habitué de l'émission. Bonjour Alexandre.
Salut, comment ça va?
Très très bien, et un autre habitué de l'émission, Mehdi Sadoun, qui est presque un sociétaire aussi. Bonjour Mehdi.
Comment vas-tu Alain? Ça me fait très plaisir de te voir, tu sais.
Moi aussi, je suis super content de vous avoir tous les deux. Avec un téléfilm sociétal qu'on va pouvoir voir ce soir sur TF1, où moi, quand j'ai vu le film, même s'il est adapté d'une histoire vraie, j'ai l'impression de voir l'histoire d'une femme, peut-être Madame Tout-le-Monde, à qui ça pourrait arriver, cette histoire-là finalement. Un engrenage d'une maman qui pète les plombs à un moment donné, Alexandre.
Absolument, il y a cette volonté de raconter l'histoire de quelqu'un de commun. C'est pas une femme qui a des problèmes particuliers au départ. Elle est voilà, en couple, elle a des enfants, elle a un boulot, tout va bien. Et puis petit à petit, on va la voir tomber dans l'engrenage de l'endettement, du surendettement plutôt, et cette descente aux enfers qui l'amène à faire un braquage d'un bar tabac. Donc un braquage pas très très ambitieux, d'ailleurs assez raté. Et donc on voulait voilà, montrer justement que c'est la frontière entre quelqu'un qui est bien dans sa vie et voilà et qui est heureux et quelqu'un qui se retrouve pauvre et sans ressources, elle est mince et dans notre société on peut vite plonger et on n'est pas toujours aidé. Voilà, donc ça raconte ça et j'espère que ça sera utile à faire prendre conscience de toutes ces femmes qui sont dans la détresse. Il y en a beaucoup, des femmes seules avec des enfants, qui plusieurs centaines de milliers sans doute en France, dont on parle pas. Et moi-même, je me suis rendu compte en m'intéressant au sujet qu'elles étaient très nombreuses. Donc c'est vrai qu'il faut, quand on peut, même quand on fait de la fiction, réagir à ça, quoi.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, en voyant la fiction, c'est qu'on démarre l'histoire par le braquage. Et en fait, on remonte le temps et on comprend, enfin, on essaie de comprendre, même en se mettant en tant que spectateur, on comprend ce qui se passe et l'engrenage, on vit l'engrenage dans lequel est cette mère de famille, avec pour seule soupape, on va dire, sa voisine jouée par Claire Nadeau. Et puis, alors, on peut dire son amoureux, mais pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose qui se dessine entre eux avec le personnage joué par Mehdi.
Oui, tout à fait. Moi, je joue un personnage qui s'appelle Alexandre et qui, en fait, arrive comme une soupape d'oxygène pour le personnage de Cécile. Voilà, il travaille au Secours Populaire et elle tombe dessus tout à fait par hasard. Mais on va comprendre au fur et à mesure de l'histoire qu'elle va se refuser à l'amour puisqu'elle vient d'en quitter un. Voilà, et puis que c'est pas sa priorité.
Est-ce que, Alexandre, pour la préparation du film, tu as pu rencontrer justement la personne dont a été l'objet cette adaptation libre totalement? Est-ce que tu as pu discuter avec elle des difficultés qu'elle a traversées justement?
Oui, tout à fait. J'ai rencontré Rosane Vicari qui a écrit sa biographie dont est tiré le film. Alors c'est vrai que nous, pour le scénario, on s'est quand même écarté voilà, de beaucoup de détails de sa vie parce que tout simplement, c'est trop long à raconter et c'est trop, on va dire, compliqué. Donc nous, on a une heure et demie pour raconter une vie comme ça. Mais elle était là sur le tournage. Voilà, on s'est bien sûr assuré que c'était fidèle et que voilà, on respectait aussi son point de vue. Donc ça fait partie de ce travail, voilà, d'adaptation. On rencontre les vraies personnes et puis après on fait notre travail de fiction pour essayer de rendre l'histoire efficace, touchante, claire et pas trop longue, puisque quand c'est un bouquin, souvent c'est très long. Voilà, donc j'espère que je suis même sûr, parce qu'elle nous l'a dit, que voilà, on n'a pas trahi, et j'espère surtout que le film va toucher un maximum de gens. Voilà.
Mehdi, je crois que c'est la première fois que tu joues un rôle un peu plus de tragique, Mehdi, comme on pourrait dire. Comment tu l'as vécu, toi qui nous fais souvent beaucoup rire, en tout cas dans les films? Est-ce que ça t'a fait du bien aussi d'explorer d'autres facettes de toi en tant que comédien?
Oui, tout à fait. C'est toujours intéressant d'aller sur un terrain qu'on connaît pas, de se mettre en danger, entre guillemets, sur un film. En l'occurrence, les comédies que j'ai fait précédemment, c'était des comédies, mais on n'a pas vraiment le rôle de clown. Généralement, c'est toujours les situations qui sont plutôt comiques. Donc moi, j'essaie de me rapprocher un petit peu de ce que je suis. Et j'étais parfaitement dirigé par Alexandre, puisqu'en fait, lui, c'est un réalisateur qui fait tout de suite confiance, avec lequel on se sent vraiment bien en amont du tournage. Et du coup, ça s'est passé, mais d'une manière très agréable, très simple et assez instinctive. Et pareil avec Cécile aussi, qui est une comédienne qui a cette énergie, et puis avec laquelle il y a une ou deux prises. Et comme elle nous envoie parfaitement bien la réplique, automatiquement, il y a beaucoup d'instinct et de naturel dans le jeu.
Cécile, c'était une évidence pour jouer ce rôle, Alexandre?
Oui, pour la qualité de comédienne, le caractère naturel qu'elle a. Justement, on parle beaucoup d'instinct, Mehdi et moi, là. Et puis, c'est vrai que Cécile, elle est là-dedans, et elle a ce dynamisme, cette énergie qui allait très bien avec la combativité du personnage principal. Et puis, il y avait aussi ce plaisir, je pense, d'être un vrai grand premier rôle pour elle à la télévision. Donc cette espèce de, on va dire, d'envie de bien faire qu'on avait tous, quoi, qui contribuait à la qualité, je pense, du film.
On va en parler avec elle, évidemment, dans un tout petit instant. Une petite anecdote de tournage, Mehdi, est-ce que tu as une scène qui a été plutôt drôle à tourner, ou qui s'est terminée de façon un peu drôle, qui a eu du mal à être mise en boîte peut-être aussi?
Je pense qu'il y a eu des petites coupures, parce qu'il y avait beaucoup de rire, on s'est tout de suite très bien entendu, et il y avait des scènes de table, évidemment, où on devait plus ou moins commencer à se connaître. Premier repas à la maison, où il devait y avoir de la séduction, on devait se regarder et tout ça. Bon, je pense que à un moment donné, ça a dû être coupé, parce que c'était quand même très long, beaucoup de fou rire.
Il y a un fou rire très très long, et je confirme qu'on a dû couper, parce qu'il n'est pas forcément compris par les spectateurs. Mais ouais, c'est vrai que sur le plateau, tout le monde était mordé.
Voilà, et puis à un moment donné, quand ça se jette sur moi pour m'embrasser, donc il fallait assurer la chute au judo, parce qu'il y avait le piano derrière, enfin, je me prenais la tête 3-4 fois sur le piano, ça faisait des notes, ça faisait rire tout le monde à chaque fois.
Bon, voilà, des bons moments en tout cas. On va découvrir ce film ce soir sur TF1. On va recevoir Cécile dans un instant, mais on va écouter tout de suite la bande-annonce, Itinéraire d'une maman braqueuse, le film à ne pas manquer. Merci infiniment à tous les deux.
Ben, merci à toi.
Il y a un Tamara 3 en préparation?
Il n'est pas en préparation, mais on serait très très content d'en faire un, mais pas tout de suite. Peut-être qu'il faut faire vieillir les persos un petit peu, raconter encore une autre histoire.
Bon, tu reviendras nous en parler. Mehdi, des projets pour fin 2019, début 2020?
Oui, alors je crois que c'est pas un scoop, mais il y a le Bon Dieu 3 qui va se mettre en marche tout doucement l'année prochaine.
D'ailleurs, le 2 est en DVD. Hein. Si vous voulez le voir, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment d'en profiter. Il est sorti au début de l'été.
Début d'été, absolument. Ouais, c'est ça. On s'est bien marré, puis là, on a envie de remettre le couvert. Et puis voilà, des films en préparation, bien sûr.
Bon, tu reviens nous en parler.
Un grand plaisir. Merci Alain, merci pour ta gentillesse et ta bonhomie.
Merci à tous les deux.
Merci à toi,
à bientôt.
C'est moi, je suis rentré plus tôt.
Ouais, super. Ah bien. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Là, tu crois, la situation, non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bon, d'abord, Aline, une amie de Christophe. Et à un moment donné, ouais, je lui ai donné de la glace et elle a renversé sur sa robe. Donc qu'est-ce que t'aurais fait la même chose que moi? C'est-à-dire que je lui ai demandé de... Voilà, pourquoi tu dis rien, là?
Va te faire foutre.
Ah ouais? Comme ça que tu me parles? Qu'est-ce que tu fais?
Tu me casses avec les gosses.
Ouais, bien sûr, tu vas nulle part.
Je me tâche, ma truc. Donne-moi mon gilet, dépêche-toi.
Ouais.
Dépêche-toi, toi. Dépêche-toi.
Super gênant, la situation.
Ta gueule. Ouais,
ouais, super. Rhabille-toi, s'il te plaît.
Où tu vas?
Claire Nadeau et Cécile Rébois nous rejoignent juste après cette petite pause. Alors surtout, vous ne bougez pas, notre spécial Itinéraire d'une maman braqueuse continue juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va continuer à parler d'itinéraire d'une maman braqueuse juste après Alexandre Castagnetti et notre ami Mehdi Sadoun. Eh bien, c'est Cécile Rebois, l'héroïne de ce film qui nous rejoint. Bonjour Cécile.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors Cécile, ce très beau film parle de ce que je pourrais dire peut-être qui peut arriver à Madame Tout-le-Monde. L'histoire d'une descente aux enfers et cette femme qui commet l'irréparable. Alors on vient d'en parler avec Alexandre et avec Mehdi. Mais toi déjà, la première chose que j'ai envie de te demander, comment tu as ressenti le scénario déjà à la première lecture sur cette histoire ?
Vraiment, je l'ai lu et je me suis tout de suite sentie concernée déjà. Parce que je pense qu'effectivement, ça peut arriver à tout le monde, cette descente, ce vertige. Tout d'un coup, la sensation qu'on n'est plus capable d'assumer, de vivre et qu'on est capable de faire n'importe quoi pour montrer au monde qu'on existe.
On commence par le braquage. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, de commencer par le braquage et après de suivre un peu l'enchaînement et la dégringolade qui permet de comprendre pourquoi tu en es arrivé là dans le film.
Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, c'est vraiment un point de vue de metteur en scène et de scénariste. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un contraste, on comprend tout de suite dans quoi on rentre, que s'est-il passé, quoi. Mais ça me plaît, ça.
Alors, le pire, c'est qu'on n'arrive même pas à y en vouloir à cette mère de famille. On est presque dans la compassion, finalement, avec elle. Et c'est là tout l'enjeu de la fiction.
Alors, moi, je comprends complètement qu'on puisse en arriver là. Je suis complètement empathique. Moi, je comprends qu'on fasse tout d'un coup, quand la vie est trop difficile, un geste, un faux braquage. Évidemment, le pistolet n'était pas chargé, mais un geste complètement... parce que braquer un bar tabac qui a 30 euros dans la caisse, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un geste de désespoir. Ouais, de désespoir, tout à fait.
Quelle est la scène qui t'a marqué le plus ?
Oh, j'ai tellement tout aimé, joué. Peut-être la scène avec mon fils aîné.
Avec Jules Houplin.
Avec Jules qui est super. Et quand j'ouvre le sac et que je trouve l'arme, c'est une scène assez forte, je trouve.
Et alors le petit, Samy, hein, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Il est épatant. On avait pu le voir dans le rôle de Mehdi, le neveu de Leïla dans Demain nous appartient. Et moi, je le trouve toujours aussi fantastique, ce gamin.
Moi, franchement, je trouve que même toute la distribution était top. Et effectivement, je veux dire, c'est facile de regarder Samy, d'être ému, d'avoir envie de l'embrasser. Il est tellement mignon, quoi. Il y avait une espèce de justesse dans le casting très agréable.
Alors, même si c'est une adaptation très libre hein, de l'histoire, c'est une histoire vraie, tu as pu rencontrer la femme à qui il est arrivé cette aventure, cette descente aux enfers.
Oui, alors je l'ai croisée. J'ai pas vraiment discuté avec elle parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais je serais ravie de la rencontrer quand elle aura vu le film. J'aimerais bien lui parler après qu'elle ait vu le film.
Oui, que vous puissiez échanger plutôt après.
Ouais, moi je préfère. Parce que pendant, de toute façon, c'est trop tard. Et avant, ça s'est pas fait, donc je préfère après.
Alors, saison 3 des Bracelets Rouges, ça aussi, c'est une sacrée aventure. Surtout que là, la fin de la saison 2 nous a laissé, mais totalement en déroute avec le réveil de Côme, ton fils.
Ouais, tout à fait. Il se réveille, on le sait, donc il se réveille. Et que se passe-t-il quand un enfant se réveille d'après un coma très long ? Comment retrouve-t-il sa vie et retrouve-t-il sa mère ? Et c'est ça qu'on traite et qui est vachement intéressant.
Le petit Marius Bivet, absolument incroyable, il va pouvoir enfin nous montrer une palette de jeux insensée.
Ah ouais, c'est un super acteur et il a pris beaucoup de centimètres.
On l'avait vu dans Box 27 et il avait déjà une partition assez incroyable. On a hâte en tout cas de le voir dans cette saison 3 qui est en tournage en ce moment et qu'on verra l'année prochaine en 2020 sur TF1.
Tout à fait.
Des projets à part les Bracelets Rouges et ça c'est déjà pas mal, remarque, tu me diras.
Peur sur le lac.
Oui, la nouvelle saison.
La nouvelle saison qui a l'air super, réalisée par Jérôme Cornio. Et un film long-métrage de Ruben Alves qui s'appelle Miss.
Il avait fait La Cage Dorée, si je me souviens bien.
Exactement.
C'est très bien ça, ouais, pour le cinéma.
Cinéma.
Bah écoute, plein de projets pour 2020, tu reviendras nous en parler. Tu sais, t'es bienvenue quand tu veux. Hein.
Avec grand plaisir.
Tu sais pas, on va recevoir, alors moi je suis complètement fan, on va écouter un petit extrait. Et on va recevoir Mamie Suze dans un instant, Claire Nadeau, que moi j'adore, dans Mamie Suze, dans Les Tuches. On va en parler avec elle, évidemment, et de sa partition dans cet itinéraire de cette maman braqueuse. Merci à toi, Cécile.
Merci, Alain, merci beaucoup.
Tu étais vraiment obligée de partir ? Il va donner de l'argent, tu crois ? Vous êtes même pas mariée.
Je sais pas, j'en ai pas parlé.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Bah, je sais pas, comme toutes les femmes dans mon cas, je vais me débrouiller, maman.
Faut que ce soit pas ridicule. C'était déjà pareil la dernière fois avec le père de Lucas. Tu sais bien que tu y arrives pas toute seule. C'est des choses qui arrivent dans tous les couples. Si ça se trouve, il aura réfléchi, il pourrait te reprendre.
Me reprendre carrément, quoi. Je suis une commode, en fait. Mais tu crois que j'ai vraiment envie de rester avec un connard qui me trompe?
Je sais pas comment tu te débrouilles avec les hommes, et je te parle pas du père de Lucas.
Ouais, ben n'en parle pas, alors. Bon, écoute, je suis dans la merde, là, d'accord? Donc soit tu nous héberges quelques jours, soit tu me le dis tout de suite et je vais chercher un pont et on va dormir dehors, d'accord?
Arrête de me faire jouer ce rôle de sorcière, c'est ta maison ici, tu sais bien.
Allez, on termine notre spécial itinéraire d'une maman braqueuse avec Claire Nadeau qui nous a rejoint. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je suis très heureux de vous avoir, parce que moi qui suis un grand fan de Mamifus dans Etuche, eh bien je peux vous dire je suis heureux de vous avoir à côté de moi.
Et comme je vous comprends, moi-même je suis assez fan de cette femme.
Alors là, c'est un autre registre, mais en même temps, elle lui ressemble un petit peu. Moi, je trouve dans son côté un peu folle dingue, puis en même temps, voilà, son côté rentre dedans, voleuse. C'est un peu la soupape, je trouve, de décompression de cette héroïne que l'on voit dans le film, incarnée par Cécile.
Oui, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Dès qu'il y a un personnage un petit peu désagréable, on pense à moi. Mais bon, enfin désagréable.
Je dirais pas désagréable, moi je dirais plutôt loufoque, drôle, tendre à la fois.
Oui, elle est pas très gentille au début. Puis après, elle s'assouplit, elle s'attendrit, elle devient plus humaine. Au début, elle est franchement désagréable, quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, justement ?
Qu'elle soit franchement désagréable. c'est ce que je pense tout le monde peut ressentir, c'est-à-dire que c'est la description d'une lente descente aux enfers, est peut-être un grand mot, mais une descente vraiment dans le désespoir, hein, et dans le truc sans issue autre qu'une bêtise terrible, quoi.
Le personnage est dans la compréhension, comme si elle avait vécu ce genre de choses avant, qu'elle avait connu cette descente aux enfers.
Oui, c'est ça. C'est une femme, oui, qui avait un métier, qui a une vie, etc., et qui à la suite d'une très grosse déception amoureuse, se retrouve seule, déçue, déclassée, sans moyens, parce qu'elle était, elle avait un métier, mais qui ne procure pas des retraites faramineuses, enfin bon, et elle se retrouve, oui, seule, vieille. À un moment, elle le dit, seule, vieille et alcoolique, donc c'est un tableau très riant. Et donc, elle voit cette jeune femme courir au précipice et elle essaye de l'aider.
Qu'est-ce qui vous fait choisir vos rôles, Claire ? Pas que le rôle soit forcément quelqu'un de désagréable, mais qu'est-ce qui vous séduit d'abord quand vous lisez un scénario ?
C'est l'écriture en général, le sujet, l'écriture, et après vraiment le réalisateur, et après c'est le personnage lui-même. Si c'est bien écrit, moi je suis partante pour jouer n'importe quel personnage. Voilà.
Oui, c'est ça aussi, le but d'une comédienne, c'est d'incarner plein de personnages différents.
Pas que les râleuses et les aigries et les méchantes. Non, non. Oui, c'est ça, c'est l'écriture. Quand c'est bien écrit, on peut tout jouer. C'est facile.
Quel est votre meilleur souvenir de tournage, justement, sur ce film ?
C'était très joyeux dans le... Enfin, joyeux. Long, mais marrant dans le...
Supermarché ?
Supermarché, voilà. Oui, d'essayer de remplir cet imperméable avec toutes sortes de choses. Et
pour que ça... Il y a un peu de poids dedans, non ?
Ça pesait beaucoup, fallait pas trop que... Enfin bon, fallait marcher d'une façon naturelle et piquer des choses qui soient réalistes et normales. Donc, ils avaient balisé tout un parcours. Mais voilà, ça, c'était amusant. Et puis, d'essayer de les refiler à Cécile qui n'en voulait pas. Enfin, Cécile, le personnage.
Vos projets ? Pour fin 2019-2020, on va vous voir au cinéma, dans d'autres choses, au théâtre.
Au théâtre, pas dans l'immédiat, mais non, je vais tourner une autre fiction télé qu'on ne verra pas donc avant la fin de l'année, normalement. Et puis au début de l'année, nous allons faire le numéro 4 de cette belle famille que vous aimez tant, des tuches 4 qui vont vers de nouvelles aventures dont j'ignore absolument tout. Je ne sais pas du tout ce qui leur arrive.
Excellent, les Tuches 4 donc en tournage en début d'année 2020.
Oui, exactement.
On a hâte de vous retrouver pour l'hiver 2021, logiquement, du coup, au cinéma.
A priori, oui.
Eh oui, il faut du temps pour faire un film, voilà, comme on dit. Claire, merci d'avoir été avec nous, Itinéraire d'une maman braqueuse. C'est le film à ne pas rater ce soir sur TF1. On vous le conseille tous les deux, en tout cas.
Ne le ratez pas, malheureux, vous rateriez...
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine, et bien pour ce 11 novembre, c'est le lancement de la série dont on entend parler depuis un petit moment, OPJ Pacifique Sud, série tournée en Nouvelle-Calédonie et qui débarque ce soir à 19h sur France O. Une série inédite en 50 épisodes avec Antoine Stipe qui fait son retour dans cette série, puisque après Cut, et bien c'est à nouveau une belle destination que va nous promettent Antoine avec un tout nouveau rôle, celui de Gaspard. Bonjour mon cher Antoine.
Bonjour Alain, bonjour cher public.
Merci d'être avec nous, Antoine. Alors, après le méchant Charles de Kervélec, eh bien là, nous allons retrouver un enquêteur de choc, Gaspard Watson, un officier de police de 54 ans. Alors, Antoine, en gros, j'ai bien compris que quand on veut te proposer un rôle, si on t'emmène en Outre-mer ou dans des endroits paradisiaques, tu dis oui tout de suite, en gros. Hein.
Absolument, absolument. En fait, je suis devenu un acteur ultramarin. Non, mais j'ai par bonheur, je tourne aussi beaucoup en France, mais là, c'est quand même dingue de me retrouver après 6 années à La Réunion, de reprendre l'avion encore plus loin, à Nouméa, pour une série dans laquelle je fais un Calédonien.
Alors, Antoine, c'est Yael Troulès qui joue aussi le rôle d'une des 4 enquêtrices. Yael, qu'on avait vu dans la série aussi Cut. Toutes les tranches d'âge vont être représentées parmi ces 4 enquêteurs. Et la particularité d'OPJ, c'est que toutes les semaines, on va pouvoir suivre une enquête au fil des jours, du lundi au vendredi, enquête qui sera résolue en fin de semaine, finalement.
Absolument. En fait, le concept d'OPJ, c'est d'avoir réuni une brigade, dont la commandante est Clarissa Ouarro, jouée par Gaël Trulès. En dessous, on a le capitaine Gaspard Watson, moi-même, qui suis un Calédonien de pure souche, un Antillais fraîchement muté. D'ailleurs, on le saura pourquoi, qui est joué par Nathan Delem, qui s'appelle Jackson Bellrose. Et nous avons Kelly Coité, la Cana, qui est jouée par une jeune comédienne de Nouméa, Marielle Carabeu. Voilà pour les personnages. Et sinon, oui, tout à fait, la série démarre le lundi 11, donc ce soir, à 19h. Et on démarre et on élude une enquête qui va se terminer, qui va se clore le vendredi. Donc les spectateurs suivront l'enquête toute la semaine avec les enquêteurs. Et le week-end, on aura... là, c'est sous réserve, un 2x52 qui résume les 5 épisodes de la semaine. Voilà, on a 10 enquêtes, donc 50 épisodes. Et c'est un mélange d'une série familiale, comme Cut l'était, et avec, évidemment, une enquête policière, comme un Cluedo, comme un Columbo. Voilà, c'est un mélange des deux, c'est vachement bien.
Comment a été accueilli en Nouvelle-Calédonie le tournage de cette série? Je suppose que pour eux, c'est une lumière mise sur leur île lointaine, évidemment, de la France métropolitaine.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, d'ailleurs, quand on y va, on sent l'éloignement. On sent, il y a 20 heures d'avion, 24 heures d'avion. Le fuseau horaire, il est de l'autre côté. Il y a 10 heures de décalage et on sent que même la proximité des pays à côté ne sont pas ceux dont on a l'habitude. Donc effectivement, là, ce rapprochement, parce que là, c'est une série qui va être diffusée en France et qui sera peut-être relayée sur d'autres chaînes du groupe quand France aurait disparaître, si on continue, il semblerait qu'on continue. Ils ont accueilli ça, mais avec une fierté. Ils avaient eu ça déjà avec Foudre, il y a quelques années, une série quotidienne produite également par Terence, sur France 2. Là, ils sont très contents parce que c'est une fierté. Et puis c'est bien après avoir tourné à La Réunion, il y a des tournages en Guyane, il y a des tournages aux Antilles, il y a des tournages à Tahiti. Il y a nous, là, au PJ, c'est très très bien de réduire la distance avec les dom-toms.
Alors, mon cher Antoine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gaspard? Comment on pourrait le résumer? Moi, je dirais qu'il est un peu simple et funky, ce Gaspard.
Ça, c'est un lapsus qui me plaît bien. Je suis simple et funky. Écoute, le personnage de Gaspard Watson, c'est un type très sympathique. D'ailleurs, puisqu'on était avec la même équipe de tournage pratiquement, il fallait pas que je tombe dans le piège de garder du Charles de Kervélec, évidemment, parce que là j'ai fait un 360 degrés, le personnage n'a rien à voir, il est sympathique, il est affable, il est tourné vers les autres.
Ah oui, c'est tout le contraire de Charles de Kervélec, là.
C'est l'opposé, et puis il a un côté déglingué, c'est-à-dire qu'il est en divorce avec sa femme et qu'il était depuis 25 ans, il essaie tant bien que mal de racheter le ranch dans lequel il a grandi, que son père a perdu au casino quelques années auparavant. Mais il est très, très, très fier de son métier. Il est moins fier de sa vie personnelle.
Antoine, les retrouvailles avec Yael, comment ça s'est passé?
Oh, super. D'abord, Yael, c'est une super comédienne. C'est un super talent, déjà reconnu à La Réunion, puisque c'était une chanteuse. Et dans Cut, elle jouait le rôle de Nine Badin. Pour la petite anecdote, il y a un truc qui est quand même très, 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 très drôle. C'est qu'on a quand même tourné 421 épisodes à La Réunion, 6 saisons, et que sur ces 6 saisons, je n'ai jamais, jamais eu de séquence avec Yael. Elle n'arrêtait pas de parler de moi, de Charles de Kervélec, mais j'ai tourné avec tous les autres comédiens, et jamais avec elle. C'est drôle. Donc là, on s'est vengé parce que du coup, on est pratiquement dans tous les plans, tous les deux.
Et bien comme ça, au moins. Et bien, on va suivre ça. OPJ Pacific Sud, c'est parti pour 10 semaines avec 50 épisodes. On va pouvoir suivre. C'est la troisième série quotidienne que France Télévisions lance ce soir sur France O. On espère en tout cas s'il y a une suite, malgré que France O normalement est amenée à disparaître. Et bien peut-être que France 3 reprendra le flambeau puisque c'est aussi son rôle de région. La Nouvelle-Calédonie fait partie d'une des régions.
Oui, tout à fait.
C'est sa vocation, effectivement, tu as raison Antoine. Merci à toi et on va se quitter tout de suite avec un petit extrait, un petit teaser de la présentation de ton personnage, tiens par exemple. Merci à toi Antoine.
Salut tout le monde, salut Alain, à très bientôt.
Calédonie, Nouvelle-Calédonie, pour moi c'est le caillou, point final. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai voulu revenir. Ici je connais bien, je connais presque tout le monde. Et ça pour un flic, c'est la base. Ça, le terrain. Tout ça c'est des trucs à 20 ans, tu peux pas savoir. Faut le vivre.
Laisse-moi plonger dans l'océan. Arrêtez le temps. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho.
Ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine, c'est le film J'accuse de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel et Emmanuel Seigné, un drame historique. Pendant les 12 années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle, se mêlent erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard, qui une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriqué. Alors à partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. Bande annonce.
Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison.
La leçon à tirer du châtiment de Dreyfus est de montrer au monde ce que nous faisons des traîtres.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître,
je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement.
On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Tu devrais quitter Paris quelque temps.
Et toi?
J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola.
Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus.
Vous non, mais moi si.
Demandez, Laurent, demandez!
J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle.
J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées.
J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux.
Traître!
Quand une société en est là,
assassin!
Elle tombe en décomposition.
L'invité d'honneur de la semaine.
Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady Melody. Avec elle je fly, ouais. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Quand j'entends sa mélodie, je fly, ouais. Il n'y a qu'elle qui me comprenne, je fly, ouais. Elle me donne le fire et je fly, ouais. J'évite les failles de la vie et je fly, ouais. Tu vois comme un oiseau là-haut, je fly, ouais. Comme un oiseau qui plane et je fly là-haut, tout là-haut, ouais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae.
Lady Melody, c'est plein de souvenirs, 10 ans déjà, et pour fêter, eh bien, ces 10 ans, c'est un 4e album au large des villes que nous présente Tom Fragé, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Tom.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 4e album qui a mis un peu de temps à arriver, mais ça y est, il est là, il est au public depuis maintenant quelques mois.
Oui, c'est vrai que c'est un album pour lequel j'ai voulu prendre le temps de laisser mûrir certaines choses, de vivre aussi, peut-être voyager, faire des rencontres, avoir de belles choses à raconter. Voilà, et aussi musicalement, j'ai eu envie de prendre le temps. J'ai fait travailler 28 musiciens sur cet album, c'est quand même considérable pour un album. Et voilà, donc très content du résultat et ravi de le partager aujourd'hui avec mon public.
Tu as travaillé avec de grands musiciens dans le domaine du reggae, bien évidemment. Sur cet album, il y a certains titres qui ont été d'ailleurs musicalisés en quelque sorte par des musiciens de Tikenja Fakoly.
Oui, j'ai la chance d'être très bien entouré sur scène et en studio. Et c'est vrai qu'il y a au saxophone, par exemple, Jean-Baptiste Mundele, qui est un saxo extraordinaire et qui m'a fait l'honneur de venir jouer de son instrument sur cet album.
Alors un tourbillon médiatique, hein. En 2009, Lady Melody était sur toutes les lèvres, sur toutes les radios. Ça a été absolument incroyable ce qui s'est passé. Toi qui es un surfeur professionnel pour le coup, puisque tu surfes énormément, est-ce qu'aujourd'hui justement ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour surfer, parce qu'à cette époque-là, il ne devait plus y avoir du tout de place pour le coup, hein.
Oui, alors c'est vrai que j'ai vécu pleinement cette période de médiatisation. J'ai essayé de la vivre au plus simplement possible aussi. Souvent, je dis que mes amis d'avant sont mes amis d'après. Mais c'était très très intense. Et c'est vrai que j'avais plus le temps de surfer. Je passais chez moi 2-3 jours par mois, donc c'était très peu pour pouvoir surfer. Bon, ensuite l'avantage de ma musique, c'est qu'elle est écoutée aussi beaucoup dans les îles. Du coup, je suis souvent parti à la Réunion, en Guadeloupe, en Calédonie, comme très bientôt. Et ensuite, quand je rentre chez moi, je prends plus le temps de surfer.
Ça fait du bien aussi, hein, effectivement. Quelles ont été tes influences musicales dès ton premier album? C'est qui les chanteurs ou les groupes qui t'ont influencé un peu en écrivant, en composant? Est-ce que tu y mets quasiment tout toi dans ces albums?
J'ai écouté beaucoup d'artistes anglophones, donc je suis très inspiré par des chanteurs comme Ben Harper, par exemple, j'adore. Norah Jones, Police, les Red Hot Chili Peppers, Bob Marley, et j'en passe. Mais j'adore la chanson française aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que ce dernier album est exclusivement francophone. Et donc j'ai accordé beaucoup d'importance à l'écriture sur ce dernier album. Et j'aime Renaud, Francis Cabrel, Tété.
Hugo Frey, dont tu as fait la première partie en octobre dernier.
C'est vrai, Hugo Frey qui est un monument de la chanson française et qui à 90 ans nous montre que c'est un métier qu'on peut poursuivre jusqu'au bout.
C'est ça, qui est incroyable. C'est ce qu'on souhaite évidemment à tous les chanteurs qui ont envie de rester dans ce métier, parce que rester, c'est pas toujours évident et c'est parfois un parcours du combattant. Et ça a été un peu ce qu'a été cette sortie de quatrième album.
Oui, c'est vrai que autant j'ai connu le soutien de tous les médias en 2009 avec Lady Melody, autant depuis ça a été un peu plus compliqué. Peut-être que je correspond pas exactement aux cases dans lesquelles on voudrait me ranger, mais moi je suis juste je fais ce métier d'abord par passion, par amour de la musique, et c'est vraiment ce qui est mon moteur au quotidien. Donc voilà, j'essaie de rester fidèle à ce que je suis, et je me dis que la roue tournera, ou pas d'ailleurs, parce que je suis juste heureux. Moi, je vais rencontrer le public qui me suit, notamment sur Instagram, où il y a pas mal de monde qui m'accompagne.
Comment t'expliques cette longévité, justement, et ce public qui t'est fidèle depuis maintenant plus de 10 ans, qui ne te quitte pas, qui reste connecté sans arrêt avec toi, tes projets?
Je pense que le public ressent lorsqu'un artiste est sincère, et moi je fais ce métier sans prétention, mais avec beaucoup de sincérité, je crois. En tout cas, vraiment, c'est ce que je souhaite. Et j'aime encore une fois, j'aime la musique. Donc quand je viens chanter, c'est toujours un plaisir que je chante dans un espace culturel ou que je chante sur des grosses scènes devant 15 000 personnes. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à être dans l'échange avec les musiciens qui m'accompagnent et avec le public. Donc je crois que les gens ressentent cette sincérité. Et du coup, à travers Lady Melody à l'époque, c'était quelque part un petit reggae comme ça, assez frais sur les ondes, sur des grosses antennes où on entend plutôt des grosses productions. Et je crois que c'est ce qui a fait la force de cette chanson.
Allez, je te laisse choisir un premier titre de l'album que tu veux qu'on découvre maintenant.
L'étranger, alors, du coup.
L'étranger.
Oui, l'étranger qui dit...
Le premier titre de l'album.
Exactement, qui dit que ça fait du bien des fois de partir, de s'envoler, partir comme ça loin, seul, et devenir l'étranger de quelqu'un d'autre, que c'est toujours enrichissant.
C'est le premier extrait qu'on va vous faire découvrir du nouvel album de Tom Fragé. Ça s'appelle « Au large des villes », et ce titre, c'est « L'étranger ». On l'écoute maintenant.
J'ai écrit mon nom en deux ou trois tours, en deux ou trois lettres. J'ai fait le grand saut sans toucher le fond. J'ai vu Singapour de mes yeux vagabonds. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout seul, sourire de Yaoundé, devenir encore l'étranger. Partir, s'envoler tout.
Allez, en ce 11 novembre, on revient dans un instant avec Tom Fragé, qui est notre invité exceptionnel aujourd'hui pour nous présenter cet album au large d'Iville. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et de retour avec Tom Fragé dans Chut, on écoute la télé. On va revenir un petit peu sur les plus grands souvenirs depuis 10 ans que tu as pu partager avec le public, des grandes salles, des grandes scènes, des rencontres peut-être qui t'ont marqué au cours de ces 10 années.
Alors si je devais parler des scènes qui m'ont marqué, à La Réunion, on m'a réservé un accueil assez extraordinaire. J'ai joué dans le petit stade de l'Est avec il y avait 3000 personnes qui avaient pris des places pour venir, donc 3000 entrées, c'est cool, c'est beau pour un artiste.
Les grands stades à La Réunion, ça doit être quelque chose alors, si ça c'est un petit.
Oui, je sais pas, il s'appelle le petit stade de l'Est, mais voilà, c'était blindé de monde et c'était magnifique. Après, je suis allé jouer en Côte d'Ivoire, je suis parti, donc j'ai fait quelques grosses scènes au Maroc aussi, à Agadir, pour un... tous les ans, ils font, M6 organise un concert qui s'appelle le concert pour la tolérance sur la baie d'Agadir. Et là, c'est 200 000 personnes qui sont sur la plage. Donc là, c'était vraiment impressionnant aussi de chanter devant autant de monde. Voilà pour ce qui est des grosses scènes. Ensuite, dans les rencontres, je suis parti avec un groupe de reggae international que moi j'admire beaucoup, qui s'appelle Grandation. Ce sont des Californiens, moitié Jamaïcains, et je suis parti en tournée en Australie avec eux, faire leur première partie dans 4 grandes villes d'Australie. Puis j'ai eu la chance de faire un duo sur mon précédent album avec un artiste de reggae qui s'appelle Tiken Jah Fakoly, que j'écoute depuis que j'ai l'âge de 10 ans, en gros, et qui m'a beaucoup inspiré. Et puis un jour, on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire et on s'est retrouvés en studio à Paris pour faire une chanson. Voilà, donc c'est la magie, je crois, de ce métier et puis de la vie en règle générale. Quand on poursuit ses rêves comme ça et qu'on s'accroche, on fait de belles rencontres.
Tu es très engagé sur la protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a encore quelques endroits du monde qui te font rêver, que tu n'as pas encore visité?
Oui, l'écologie, c'est un combat de longue date pour moi. C'est pas, je me suis pas découvert cette passion-là en même temps que plein d'autres aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que toute une démarche marketing autour de l'écologie, et parfois c'est un peu choquant, je trouve. Je crois qu'il faut vraiment faire passer le message et être dans l'éducation des enfants surtout. Voilà, l'éducation a un rôle très important à jouer pour prendre conscience. Tout simplement, que les petits gestes du quotidien peuvent changer pas mal de choses. Et en voyageant, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager. C'est vrai que j'ai découvert des endroits dans le monde, en Indonésie par exemple, où on imagine des plages complètement magnifiques, et pleines de déchets. Voilà, donc j'essaye à ma petite échelle d'organiser des ramassages régulièrement au Maroc, où j'ai mon école de surf, mais aussi chez moi à Cap-Breton, comme la semaine dernière avec le Leclerc de Cap-Breton, on a organisé un grand ramassage. Et là, je suis en train d'essayer de monter un festival musique écologie en Côte d'Ivoire pour organiser aussi un énorme ramassage sur la plage d'Assigny. Voilà.
Il y a encore des endroits alors qui te font rêver, que tu as envie de visiter, que tu n'as pas eu le temps d'aller?
Bien sûr, l'Afrique, j'adore l'Afrique, mais j'ai beaucoup fait l'Afrique de l'Ouest, mais je connais très peu l'Afrique de l'Est. Il y a des endroits en Afrique où c'est un peu chaud d'aller aussi, malheureusement. Moi, j'adorais le Mali, j'y allais beaucoup, mais aujourd'hui, le nord du Mali, c'est très compliqué, c'est très risqué de s'y aventurer. C'est pareil, l'Australie, je connais que l'Australie de l'Est, mais j'aimerais beaucoup découvrir l'Australie du Nord et l'Australie de l'Ouest. Voilà.
Mais voilà, il y a encore des zones inexplorées. Pour toi, quels sont les messages les plus touchants que tu as pu recevoir des fans maintenant? On a parlé des rencontres professionnelles, on a parlé de tes plus grandes scènes. Mais est-ce que t'as un jour une fan ou un fan qui t'a plus ému que d'autres?
Oui, il y en a pas mal qui me viennent à l'esprit. Alors il y a toutes les petites filles qui s'appellent Mélodie, qui sont nées l'été 2009. Notamment une qui me suit avec sa maman Marilyn, et ils m'écrivent à chaque occasion, et c'est assez incroyable. Et du coup, j'ai fait un post sur Instagram pour la sortie de mon dernier album avec cette petite Mélodie qui tient mon nouvel album dans les mains. Voilà, ce sont des gens qui me suivent au quotidien, ça me touche beaucoup. Et puis j'ai eu aussi droit à certains messages très très touchants de gens qui sont malades et qui m'ont dit que ma musique les a accompagnés dans des moments vraiment très très compliqués, et que ça leur a donné de la force et du soleil, et que du coup il faut pas que j'arrête. Et ça, c'est je crois les messages les plus touchants que j'ai pu recevoir, ouais.
Qui donne envie de continuer, du coup.
Qui donne envie de continuer, parce que je me rends compte que quand j'écris des chansons chez moi, dans ma chambre, ensuite elles voyagent parfois jusqu'en Côte d'Ivoire ou, voilà, très loin. Mais aussi autour de chez moi, dans la voiture, des gens qui partent travailler le matin, ils écoutent mes chansons, ça leur fait du bien. Et rien que pour ça, je me dis qu'il faut continuer et que j'ai raison d'avoir choisi cette voie.
Au large des villes, c'est l'album qu'il vous faut. C'est le 4e album de Tom Frager. Allez, ton titre coup de cœur, moi j'ai eu le mien. Alors maintenant, je te laisse choisir le deuxième qu'on va écouter maintenant.
Alors c'est assez difficile de choisir parce que il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Ça n'est pas perdu et qui parle d'écologie justement. Mais je crois que je vais choisir un titre qui s'appelle Les silences et qui s'adresse à mon petit garçon de 6 ans. C'est la première fois que j'écrivais une chanson pour lui. Donc voilà, je sors un peu de ma zone de confort. C'est un piano-violon qui pourrait rappeler un petit peu Morgane de toi de Renaud. Voilà, sur le même thème en fait.
On va l'écouter maintenant. Merci à toi Tom d'avoir été avec nous dans Chute en écoute la télé, d'avoir partagé ce petit moment toute intimité dans ce mois de novembre un peu gris. Tu nous as amené un peu de soleil avec tes chansons et on va partager maintenant Les silences ensemble. Merci à toi.
Merci beaucoup Alain. Et si j'avais juste un petit dernier mot à dire, c'est simplement si vous avez envie de me rejoindre ou de m'apporter du soutien ou simplement de voir un petit peu, de partager les messages que je défends au niveau de l'écologie, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là que tout se passe pour moi. Merci beaucoup.
Allez, couvre-toi, mon grand. Dis-moi à quoi ça sert de vouloir tout savoir tout le temps et de parler au courant d'air comme un soleil dans son écrin et sans en avoir l'air. C'est ton sourire qui ce matin est venu bouleverser mon univers. Je ne sais pas grand-chose de la vie finalement. Tout ce que j'ai appris c'est que quand tu me tends les bras, que tu t'accroches à mon cou, les incertitudes m'abandonnent. Et à chaque instant que tu façonnes, je voudrais déjà que jamais rien ne change entre nous. Tu me diras ce que tu penses, à la surface et dessous, il n'y a que les silences que je redoute entre nous. Donne-moi la chance d'être toujours là sur ta route quand tu doutes. Que vois-je couler sur ta joue? Essuie tes larmes et reviens. Le monde est à ceux qui restent debout. Pour autant d'évidence que de tourments, autant d'amour que de peine, c'est toujours la vie qui nous mène. Bon gré, malgré nous, oh, laisse-la faire ses affaires après tout. Elle s'arrange et tout change au détour d'une rue, au détour d'une étoile dans son grand carnaval. Tu me diras ce que tu penses, à la surface et dessous, il n'y a que les silences que je redoute entre nous. Donne-moi la chance d'être toujours là sur ta route quand tu doutes. Et même si on s'est perdu, on s'est défait. Tu es de loin ce qu'on a fait de mieux. Je serai là où tu m'attends, comme Nesta sous les cerfs-volants. Tu me diras ce que tu penses, à la surface et dessous, il n'y a que les silences que je redoute entre nous. Donne-moi la chance, je serai là toujours, toujours.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chez ton écoute la télé, nous aurons le plaisir de consacrer notre émission, eh bien, non seulement au grand lancement de la série événement de TF1, le bazar de la charité. Et nous aurons le plaisir de recevoir Alexandre Laurent, le réalisateur, Iris Buget, la productrice, ainsi que Camille Lou, une des trois héroïnes de la série. Et d'ailleurs, Audrey Fleurot se succédera la semaine suivante et on aura les trois héroïnes puisque Julie Debonas sera également avec nous début décembre pour les épisodes 5 et 6 de Beau Rendez-vous en perspective. Et puis ça sera une spéciale Les Éblouis, le film de Sarah Souko qui sortira le 20 novembre au cinéma. Sarah sera présente dans notre émission accompagnée de Céleste Brunkel et de Jean-Pierre Darroussin qui seront nos invités exceptionnels. Vous l'avez compris, c'est encore une émission événement que l'on vous prépare lundi prochain dans Chez ton écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h40 sur Bergerac 95 pour la quotidienne et sans oublier le grand retour de l'Edo lundi prochain à 20h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.